Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Parmi les annonces qui ont étayé le grand raout du président de la République ce matin, il a été question de service civique. Le service civique, c'est un contrat qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans d'effectuer des missions dans des associations, des collectivités locales ou des établissements publics pendant 6 à 12 mois pour une indemnité de 573 euros. François Hollande souhaite qu'à partir du 1er janvier prochain, tous les candidats à un poste de service civique soient acceptés. Environ 180 000 jeunes contre 35 000 l'année dernière. Seulement voilà, il reste des questions, des problématiques en suspens que le gouvernement ne semble pas prêt à soulever. Ainsi, dans un article publié sur le site de la Vie, Anne Guillon souligne que seuls 0,4% des volontaires en service civique sont des personnes en situation de handicap. L'objectif était de 6%. De la même manière, 11,7% des volontaires sont issus des quartiers au lieu des 25% attendus. Autre point qui fait grincer des dents, seulement 25% des volontaires en service civique n'ont pas le bac. Pire, ils sont souvent surdiplômés. En 2012, 17% d'entre eux possédaient un diplôme allant de la licence au doctorat. La seule solution pour trouver un poste, dégoter une première expérience, devient le service civique. Alors, étendre le nombre de volontaires, ok, mais il reste tout de même quelques modifications à faire, monsieur le président.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons l'association Influence qui organise cette nuit au Soleil Café une nuit sous le thème Anonymous. Ce sera juste après la chronique de Thomas dans les eaux internationales. En fin d'émission, Khadidia et Benjamin vous présenteront leur chronique et l'agenda de la soirée. Mais d'abord, nous recevons deux étudiants en Master 2 Archives qui organisent demain une journée d'études à Belle Bay. Comment les archives envisagent le virage numérique? Quelles opportunités et quels risques aussi? On en parle tout de suite.
Aujourd'hui, actuellement, il est très difficile quand on est un Chinois qui vit en Chine continentale de s'informer sur les événements de Hong Kong, notamment par le biais des réseaux sociaux et de Internet en général. Très peu d'informations circulent et le peu qui circule sont généralement des informations véhiculées par les autorités chinoises elles-mêmes, donc une version très officielle des faits.
Pékin qui essaie de museler la révolution des parapluies de Hong Kong, révolution connectée, révolution 2.0, quand même à dire les médias qui semblent découvrir Twitter. Depuis 2011 et le printemps arabe, le numérique a désormais sa place dans tout soulèvement populaire, des soulèvements qui réclament transparence et démocratie. Historiquement, les archives sont, comme le numérique aujourd'hui, représentatives de la démocratie, des sources fiables, témoins des faits passés, aux archives donc désormais de prendre un virage numérique et vite encore. C'est pourquoi demain, les étudiants du Master 2 Archives de l'Université d'Angers organisent une journée d'études consacrée au thème « Archives et démocratie à l'ère du numérique, nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités pour les archivistes ». Bonjour Aude.
Bonjour.
Bonjour Messine.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux donc étudiantes dans ce Master 2 Archives. C'est la 13e journée d'études qui est organisée par les étudiants en Master 2 Archives. Pourquoi ce thème aujourd'hui, alors que la question aurait pu se poser déjà il y a 4 ans, lors du printemps arabe de 2011?
Eh bien, d'abord, je voudrais dire que ça fait longtemps que les archives sont concernées par le numérique, même le patrimoine en général. Les musées ont depuis longtemps essayé de mettre leurs collections en ligne, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a des questions plus brûlantes qui se sont posées à une échelle internationale. Je pense par exemple à la condamnation de Google par la CNIL, à des choses comme ça. Et dans notre métier, même si ça fait un certain temps qu'on réfléchit à ces questions, il y a eu une série d'actualités brûlantes qui a fait qu'on a voulu organiser cette journée d'études sur ce thème parce que ça nous semblait vraiment correspondre à des enjeux qui, en ce moment, posent beaucoup de questions pour les archivistes.
Alors on a une image des archives comme un tas de dossiers sépia recouverts de poussière. On imagine aussi des gens qui les consultent avec des lunettes forcément. Où est-ce qu'on en est concrètement dans la numérisation des archives? Vous venez de dire que là, ben, y avait déjà eu des sujets brûlants sur ce thème-là, mais concrètement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Aujourd'hui, il y a un tournant de plus en plus marqué vers la numérisation pour un souci de gain de place, d'optimisation, d'accès à l'information, de circulation des documents. Les notaires commencent à utiliser un minutier central pour favoriser le transit de leurs minutes et les signer directement. Dans les assemblées, on commence à n'utiliser que des documents papier. C'est pareil pour les entreprises.
Donc ça, c'est en termes très pratiques, mais votre journée d'études s'intitule « Archives et démocratie à l'ère du numérique ». Alors concrètement, pour la démocratie, quels enjeux la numérisation des archives peut-elle représenter ?
Eh bien, il y a un lien d'abord avec l'histoire qui est renforcée. On pense par exemple aux archives des juifs spoliés. Ça, c'est des thèmes qui ont été étudiés. Et c'est vrai qu'on a souvent parlé des archives comme quelque chose de secret, de défendu. Il était peut-être par le passé plus difficile d'accéder à ces archives. Et justement, les numériser et les mettre en ligne, c'est permettre un accès plus facile, d'abord géographique, parce que la plupart des archives sont conservées à Paris. Et pour les chercheurs, c'est parfois difficile de se déplacer. Et plus largement, c'est aussi des enjeux de transparence, communiquer de quelle manière on classe les archives, quels choix on a été fait, et que les services disent plus quelles sont leurs méthodes, en fait, pour qu'après les historiens sachent quelles méthodes on a utilisées pour trier, pour classer et pour choisir les documents qu'on a décidé de garder.
Alors, dans votre journée d'études de demain, vous allez beaucoup parler d'open data. L'open data, c'est le fait de rendre public des données publiques, en fait, c'est ça. Est-ce que on peut appeler ça des archives, même si c'est des données qui, par exemple, peuvent dater de l'année dernière, 2014 ?
Eh bien, une archive est archive à partir du moment où elle va être créée et validée. Donc, ce sont déjà des archives d'il y a un an, qu'on appelle des archives courantes, donc elles témoignent d'une activité. Et là, l'enjeu, comme disait Messine, c'est de pouvoir les conserver pour pouvoir les consulter rapidement. Et ça répond aussi à cet enjeu de transparence.
Mais il y a un autre enjeu, en fait, c'est la lisibilité de ces données. Puisque quand on va à un site sur opendata.gouv.fr, je ne sais plus exactement l'adresse, mais on en parlait la semaine dernière dans une émission sur le Big Data, on tombe sur des tableaux Excel complètement illisibles. Est-ce que cette transparence des archives, c'est un enjeu de la numérisation?
En fait, pour qu'il y ait une véritable transparence, il est nécessaire que les administrations de l'État, qui sont dans l'obligation de mettre à libre disposition ces données, puissent les rendre lisibles en les expliquant, en indiquant clairement leurs sources et leur contexte.
C'est vrai que dans tout projet de numérisation, il faut réfléchir à l'infrastructure, en fait, pour pouvoir permettre des recherches faciles. Et ça passe par une longue réflexion, notamment sur ce qu'on appelle les métadonnées, quels mots-clés on va entrer à partir de quel angle, en fait, on va pouvoir accéder à l'information. Est-ce qu'on va, demander une date, on va demander un mot-clé? Et ça, c'est des choses qui se réfléchissent très en amont et qui demandent beaucoup de temps à se mettre en place.
Il y a une des questions que vous posez dans la présentation de cette journée d'études, dans le dossier de présentation, c'est « Une bonne gestion des archives signifie-t-elle nécessairement une gouvernance réellement démocratique ?» Alors, on peut tiquer quand on lit cette phrase, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la transparence, elle a peut-être des limites?
On l'a pu le voir dans les épisodes de Maïdan en Ukraine, ou lors de l'interdiction, la tentative par la Chine de masquer la révolution des parapluies. C'est que les données peuvent être librement accessibles, mais par des systèmes informatiques peuvent être verrouillées. Et l'enjeu de la numérisation, c'est aussi qu'elles peuvent être falsifiées beaucoup plus facilement qu'un document papier qu'il faut ressortir et qu'on ne peut véritablement pas effacer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles limites il faut mettre en place à cette gestion démocratique?
Ce qu'on a voulu dire, c'est aussi qu'il y a un lien, en fait, on constate entre les pays, on va dire, où il y a des dictatures et les pays dits démocratiques. Et dans les pays où les archives sont fermées ou même où il n'y a pas de service d'archives, souvent, c'est des pays dictatoriaux. Et le fait d'avoir, de posséder des services d'archives et des services d'archives qui fonctionnent bien, c'est un indice de démocratie. Et après, concernant les documents numériques, l'État doit se porter garant de la véracité de l'information. Et il y a tout un tas de systèmes actuellement qui se mettent en place, avec par exemple la signature électronique, avec des formats qui vont se maintenir dans le temps, pour faire en sorte qu'on ne modifie pas l'information et qu'on puisse garantir une information qui soit vraie.
Il existe des délais de communicabilité pour certaines archives, des délais qui ont été revus à la baisse en 2008, hein, il me semble. Par exemple, 50 ans en ce qui concerne le secret de la défense nationale, les intérêts fondamentaux de l'État en matière de politique extérieure. Par exemple, les documents comportant des informations permettant la fabrication, l'utilisation et la localisation d'armes de destruction massive, là, il n'y aura jamais d'accessibilité. Ces délais se réduisent pourtant avec cette loi de 2008. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il y aura peut-être plus de délais du tout entre le temps de la production des archives et puis la communicabilité? Est-ce qu'on peut imaginer un moment où ça pourrait arriver?
Personnellement, je ne pense pas, parce que l'accessibilité des données, ça relève aussi de tout ce qui est secret professionnel et industriel et de l'image d'une entreprise. Donc je pense que même les administrations se doivent de garder un certain secret pour ne pas diffuser trop tôt des données qui pourraient porter préjudice à une personne ou à une entreprise.
On va poursuivre cette discussion au Démessines juste après Gomina avec She's Like.
Thank you.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est en compagnie de Aude et Messine, qui des étudiantes en Master 2 Archives à l'Université d'Angers, qui organisent demain une journée d'études qui est intitulée « Archives et démocratie à l'ère du numérique, nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités pour les archivistes ». On parlait de l'opportunité de la numérisation des archives pour la démocratie. On a abordé les risques, on va en apporter un autre, c'est la vie privée. Où est-ce qu'on peut fixer la limite entre la démocratie, la transparence et la vie privée des citoyens?
La CNIL, qui est une institution qui a pour but de prévenir justement les atteintes à la vie privée qui peuvent advenir justement dans cette ouverture des données. Donc il y a toute une logique informative qui propose des fiches pour reconnaître les atteintes à la vie privée. On peut saisir la CNIL si on a l'impression que notre vie privée est atteinte. On peut demander une protection. On a des obligations de déclaration à la CNIL sur ces questions-là. Donc ça, c'est un premier point.
La CNIL, dont on a parlé la semaine dernière, toujours à l'occasion de cette émission sur le Big Data, qui semble quand même être un petit peu obsolète. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une petite révolution dans cette commission informatique et liberté?
Je ne dirais pas qu'elle est obsolète, je dirais qu'elle est un peu dépourvue et manque de moyens, parce qu'en fait, beaucoup de risques et d'atteintes sont à des niveaux auxquels elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas attaquer Facebook, elle ne peut pas obliger Google à... Même si elle peut influencer, et je pense que... Et d'ailleurs, il y a des discussions à ce niveau-là. Il faudrait qu'au niveau européen, il y ait une législation commune et stricte, et peut-être qu'au niveau européen également, il y ait une institution commune qui s'intéresse à ces questions-là et qui donne... et qui puisse faire contrepoint un petit peu, en fait, aux États-Unis, où essentiellement, d'où viennent essentiellement les problèmes liés à ces questions-là.
Il y a clairement une scission, hein, quand on vous écoute, entre l'Europe et puis les États-Unis sur ces questions d'archives, de numérisation, de secrets, de transparence.
Surtout au niveau de la vie privée, c'est vrai que... En France particulièrement, on a la chance d'avoir une législation qui protège beaucoup les citoyens. Mais le problème, c'est que Internet, c'est justement international et les législations ont du mal à s'appliquer dans le champ du numérique.
Et il faudrait justement peut-être réfléchir à une législation un peu commune, une instance commune qui chapeauterait un peu... ces questions-là sur la vie privée notamment.
Et en tout cas, en Europe, il y a une décision qui a été prise en mai dernier, c'est le droit à l'oubli dont vous avez parlé tout à l'heure. Depuis mai, donc, les internautes européens peuvent réclamer la suppression de résultats de recherche les concernant sur ce super moteur de recherche qui est Google. C'était nécessaire, ce droit à l'oubli, ou c'est dangereux de devoir, que les citoyens puissent faire le tri dans leurs propres archives, en fait?
C'est nécessaire et dangereux. Nécessaire parce que, comme on dit, les erreurs de jeunesse ou les erreurs en général arrivent à tout le monde. Donc que quelqu'un puisse, en tapant notre nom, découvrir des photographies, on n'est pas à notre avantage, et ne pas nous employer ou nous faire une augmentation d'impôts ou quelque chose, parce que pour une faute qu'on aurait commise il y a 15 ans, c'est un peu lamentable ou enfantin. Et en même temps, il faut imposer une limite entre le droit au pardon et puis la suppression complète de toutes les données nous concernant.
Je pense par exemple à des personnalités publiques, par exemple des élus qui auraient, dans l'exercice de leur fonction, détourné de l'argent par exemple, et où il y aurait eu des articles dans la presse. C'est vrai que si là on commence à supprimer toutes les mentions... De ces personnes, ça pose problème. Et justement, c'est le droit à l'oubli, il est nécessaire, mais il est difficile à définir et peut-être qu'il devrait être plus clairement encadré.
Alors, le droit à l'oubli, l'open data, tout ce dont on vient de parler, on vous en reparle demain, pendant cette journée d'études. Donc, à la Maison des sciences humaines, dans la salle Germaine Tillon, de 9h30 à 17h30. Ça s'adresse effectivement aux professionnels, aux chercheurs, mais aussi à tous les étudiants qui sont intéressés par le sujet.
Mmh, exactement.
L'idée, c'est de ramener le plus de monde à s'intéresser à ces questions-là.
Oui, c'est vraiment d'ouvrir notre métier, notre profession à toutes les disciplines, à toutes les formations, parce que ces enjeux d'open data et de données personnelles concernent chacun, quel qu'il soit.
Est-ce qu'on peut citer peut-être quelques noms d'intervenants qui viennent demain et leurs horizons, de d'où ils viennent ?
Alors, nous avons Catherine Bernard, qui est directrice adjointe des archives municipales de Toulouse. Gertrude Elhout, qui vient de Belgique. Et puis...
Vient de loin ?
Oui.
Oui, on a par exemple un intervenant, Charlie Jolivet, qui a exercé en tant qu'archiviste aux Comores et qui va nous parler justement... du cas de Mayotte, de voir leur rapport aux archives et quelle est la situation démocratique dans cette région.
Un mot tout de même sur votre formation, le master archives, histoire et documents, métier des archives, c'est un cursus professionnel qui est proposé à l'UR depuis 1993. Comment on vient à ce master-là et qu'est-ce qu'on fait en sortant de ce master-là ? Archiviste, bien sûr, mais dans quel domaine ?
On est sélectionné sur dossier et sur entretien. Et ensuite, on peut être employé soit dans les administrations publiques, mais beaucoup dans tout ce qui est les entreprises privées, chez Total par exemple, où on devient prestataire de services en archivage. Donc ça ouvre à une panel de métiers assez divers, surtout sur les archives courantes et intermédiaires.
Et quel attrait pour les archives, vous, ça date de quand, cette volonté de vous intéresser à cette matière ?
Nous sommes essentiellement des étudiants qui ont un parcours historique. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons réalisé des recherches pour un mémoire et on a été au contact d'archives. Et naturellement, on a eu envie de nous-mêmes, d'avoir ces documents entre les mains, de les lire, de les classer... Et en fait, je pense, pour beaucoup d'entre nous, en entrant dans ce master, on avait une vision, la vision traditionnelle, en fait, du métier d'archiviste. Et on a découvert qu'archiviste, on pouvait l'exercer à des tas d'endroits et pas forcément avec des chartes du Moyen-Âge.
Merci beaucoup, en tout cas, Audrey Messine, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis, bonne chance pour demain. Cette journée d'études, bon courage.
Merci. Merci à vous. Don't oversleep, no time for dreaming, my son. Childhood is over, now the real game may begin. Where you can lose, don't even try to win. He said stop walking, now you have to run. Kiss me sorry, now you're playing alone. One by one, take any opposition down. Who wants to be without your friend on the phone?
c'était Nasser avec Brunson.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Thomas dans les eaux internationales. Salut Thomas.
Salut Tiffany.
Bon alors Thomas, je dois dire à nos auditeurs que c'est malheureusement ta dernière chronique à Radio Campus Angers pour cause de départ professionnel.
Eh oui Tiffany. Tiffany ?
Oui.
Ah non, excuse-moi de te déranger, j'attendais juste une réaction de ta part. Je croyais que cette chronique allait forcément prendre un tour dramatique, tu vois, et que j'allais devoir essuyer une larme que j'aurais vue perler sur ton doux visage, et que je t'aurais dit de continuer, de remonter en selle, de ne pas abandonner, même si je n'étais plus là. Mais non, visiblement rien. Pas un millilitre d'eau salée sur ta joue, pas une once de trémolo dans la voix. Bon ok, on était loin d'être en couple, mais on se voyait quand même tous les jeudis soirs. Tu avais la chance d'être l'un de mes nombreux plans réguliers. Comprends que ça puisse me faire du mal de ne pas te sentir ému.
Oui Thomas, t'as raison, mais pour nos auditeurs c'est une chronique et ta vie privée, ils s'en foutent un peu.
Alors comme ça, ils s'en foutent de ma vie privée, les auditeurs ? Ah bah ça, c'est la meilleure. Si je viens faire une chronique sur la géopolitique depuis le mois d'octobre, c'est pas simplement pour l'amour du partage des informations et des idées. Non, non, j'ai quand même envie de récolter quelques likes sur mon mur Facebook et quelques retweets sur les réseaux qui gazouillent, merde.
Bon, tu nous l'as fait ta chronique, oui ou non ?
Bon, ok, mais simplement pour sauvegarder ma irréputation. D'ailleurs, tu sais, cette question de la reconnaissance par les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul à la rechercher. À travers la planète, c'est plus de 2 milliards de personnes physiques ou morales qui possèdent un compte sur un réseau social. Bon, forcément, le réseau social qui arrive en tête, c'est Facebook, avec 1,35 milliard d'abonnés, qui dépasserait, selon les chiffres de 2015, la population chinoise. Facebook, le mastodonte, est suivi de Qzone, le Facebook chinois qui engrange plus de 600 000 profils actifs. Ensuite viennent d'autres réseaux, loin derrière, avec entre 350 et 200 000 inscrits. Il y a Google+, Instagram, Twitter, LinkedIn et Tumblr. Voilà pour les gros des gros, les McDonald's de l'Internet.
En France, je suppose que les chiffres sont aussi impressionnants.
Et oui, les réseaux sociaux qui ont le plus de succès sur les globes sont le même en France que ceux dans les autres pays. La culture anglo-saxonne est totalement imprégnée chez nous aussi. Mais d'autres entreprises essayent de surfer sur la vague et proposent des concepts différents, notamment le réseau Feed.
Comment ?
P-H-E-E-D. C'est très étonnant. Il faut d'abord considérer qu'un réseau social n'est pas simplement un lieu d'interaction sociale. C'est aussi, et pour les investisseurs, surtout un espace économique. Un endroit pour faire du biz, quoi. Et oui, comme vous le savez, vos données valent beaucoup d'argent. Et vos likes peuvent créer des emplois. Et les publicités amènent de la médiatisation aux entreprises. Eh bien, le réseau Feed s'est dit qu'il allait carrément pousser la logique encore plus loin. Comme sur Facebook, on partage des mots d'esprit, des actualités, des photos, des vidéos. Et en suivant le filon de Twitter, les posts sont limités à 420 caractères. Mais l'idée, c'est surtout de protéger l'accès aux données personnelles, contrairement à Facebook. Et pour cela, quoi de mieux que de faire payer les autres utilisateurs pour l'accès à votre profil.
Quoi, tu veux dire que pour voir des photos de toi avec ton chat, je vais devoir raquer ?
Non, pas forcément. Les utilisateurs choisissent de rendre payant ce qu'ils désirent. Sur ton compte, il y a une partie gratuite et une partie premium. Mais c'est vrai qu'il est plutôt destiné à suivre des gens connus, dont on est prêt à payer pour savoir un peu plus de leur vie privée. Le prix d'un regard sur un post est compris entre 2 et 100 dollars. Idéal pour des stars voulant faire la promotion d'un futur album.
Et toi, tu voulais nous parler d'un autre réseau pour terminer, je crois.
Ouais, je veux juste faire un aparté pour parler de Jelly.
Jelly, tu peux épeler s'il te plaît ? Tu connais mon niveau d'anglais ?
Ouais, alors J-E-2-L-Y, qui propose une interface de questions-réponses entre particuliers. L'idée est d'envoyer des questions à ses potes, accompagnées d'une photo par exemple. Idéal pour les séances shopping et les petits selfies, les selfies en cabine d'essayage. Bon, et puis je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais je vous conseille aussi l'application Chaze.
Comment ça s'écrit ?
C-H-A-Z-E, une appli qui permet de faire des concours photos entre amis. Bon, voilà, pour moi c'était ma dernière chronique, vous pouvez me retrouver forcément sur Facebook ou Twitter. Recherchez Thomas Zucchelli. Bon, ok, j'ai compris. Tiffen, là encore, je vais devoir épeler Thomas Zucchelli, Z-U-C-H-E-L-I.
Merci. Thomas, pour ta présence cette année dans le sous-marin et bonne suite.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir Jérémy Gébert.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Influence, un collectif de DJ qui réalise des soirées électro à Angers et vous êtes venu en compagnie d'Alan Chuck. Bonsoir.
Bonsoir.
Électro, vous faites de l'électro, de la house.
c'est ça.
House électro, house progressive, tous ces dérivés, donc un peu de tout, quoi. Moonbutton, on tape dans l'électro minimal, la dirty, on fait absolument tout. On s'adapte à la clientèle dans un premier temps, on se fait plaisir et on fait plaisir aux autres.
Et vous faites partie du collectif.
C'est ça.
Vous présentez cette nuit une soirée, enfin c'est pas une soirée, c'est une nuit en fait.
C'est une nuit, oui.
Sur le thème Anonymous au Soleil Café. On va commencer par parler de la prog de cette soirée. Donc Alan Chuck, vous y êtes forcément.
Oui, on m'a appelé. Donc c'est le président qui m'a sollicité pour cette soirée. On va dire ça comme ça. Et ouais, effectivement, ça promet d'être une grosse soirée. On a pas mal de monde déjà qui sont actifs. On attend pas mal de. Pas des grosses têtes, mais ouais, on a pas mal de gens qui vont venir dans cette soirée.
Et puis il y a aussi le DJ Jérémy de Bakker.
C'est Jérémy de Bakker, on l'écorche pas parce qu'il est pas content. Il est pas là, mais bon.
Ouais.
À quoi est-ce qu'il faut s'attendre en termes de. Donc c'est de l'électro, d'accord, mais concrètement c'est 6 heures de mix et comment ça se passe?
Alors comment ça se passe? Donc en fait, cette soirée-là, exceptionnellement, il y a toute l'équipe de réunis. Donc il y a Vincent Brousse-Mich qui est notre infographe et bras droit directement. Il y a Alan Chuck, donc, qui est là pour mixer. Il y a Jérémy de Bakker. Il y a Sébastien Ardensund. Donc en fait, on jongle un petit peu sur un style qui est, comment dire, qui est différent. Trois DJ différents, trois styles différents en type de musique. Et avec un thème qui est bien particulier, quoi.
Voilà, le thème de la soirée, c'est Anonymous. Alors, pour ceux qui débarqueraient, hein, 2015, c'est un mouvement activiste qui se manifeste en grande partie sur Internet avec ses masques blancs. Pourquoi ce thème, Anonymous?
Alors, c'est un thème que je préparais depuis à peu près un an, en fait, donc bien avant les attentats. Malheureusement, on est tombé justement dans la période de buzz, c'était pas réellement notre but. Maintenant, pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème qui me tient à cœur particulièrement sur le domaine de l'activisme, de la liberté d'expression, de tout ce qui s'approche à cela, en fait.
Alan Chuck, vous vous reconnaissez, vous, dans cette thématique? Ou aller honnêtement, comme ça?
Honnêtement, pour faire très simple, Anonymous, ouais, ça cache une part de réalité. C'est une vérité, quoi, derrière. C'est, on dit les choses, on explique clairement des choses que le peuple n'a pas réussi à comprendre. Nous, notre musique, ça va se baser un peu sur ce concept. C'est-à-dire qu'on envoie de la musique, des nouveautés, des perles, des pépites. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont très sceptifs à ça, ils vont comprendre tout de suite que, voilà, on n'est pas là pour faire du commercial ou... Voilà.
Tout à fait, oui.
C'est assez vaste. En fait, notre musique, elle est assez vaste. C'est un large répertoire, mais bien, bien ciblé sur des critères bien. Enfin, on s'adapte au public, toujours. On s'adapte surtout au public.
Concrètement, le thème Anonymous, où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Comment est-ce qu'on va pouvoir le voir dans cette soirée?
Dans la soirée, vous voulez dire? Alors, dans la soirée, on va s'appuyer par le biais des écrans déjà. Donc, on va diffuser en non-stop des vidéos Anonymous. Il va y avoir donc une musique qui sera ultra non commerciale. Donc on est là pour révéler des jeunes talents, on est là pour montrer un petit peu tout ce qui se passe, donc pas de Maître Gims, pas de...
Surtout pas. Si on peut éviter, surtout pas.
Voilà, en plus de ça, donc ça se situe au Soleil Café ce soir, donc entrée gratuite, et vous avez le masque directement qui est donné.
Qui est offert, exactement.
Voilà.
Vous, Alan Chuck, c'est quoi vos influences? C'est pas Maître Gims, apparemment?
Alors, si on peut... Non,
comment vous en êtes venu à l'électro? Et puis, qu'est-ce qui vous berce?
Alors, moi, à la base, mes parents sont baignés dans la musique. Mon père, il est plutôt funk, ma mère, il est plutôt disco. Depuis mon tendre jeunesse, je suis baigné dedans. Donc, moi, à partir de 13-14 ans, j'ai écouté mes premiers sons. J'ai commencé à mixer mes premiers sons sur quelques logiciels. J'ai commencé à m'instruire, donc à faire des recherches. Pendant des années, j'ai commencé à m'instruire des années 70, 60, 80, et au fur et à mesure, au bout de 3-4 ans, ça fait vraiment 3-4 ans, je m'instruis beaucoup de la musique électro et tous ses dérivés. C'est de la recherche approfondie, tous les jours, écouter tout le temps les mêmes choses, rechercher des pépites à droite à gauche, toujours cette notion de qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'on peut apporter nous. Et nous, on est la réponse à cette question. Enfin, on pense être la réponse, Jérémy.
On fait le nécessaire.
On fait le nécessaire pour, voilà.
Est-ce que vous trouvez la réponse, en tout cas, dans le public qui vient? C'est pas la première soirée que vous organisez. En général, il y a...
Non. Oui, on a effectivement une clientèle qui nous suit, une clientèle qui est très électro, une clientèle qui n'est pas forcément non commerciale. Donc évidemment, on se retrouve dans des boîtes de nuit d'Angers énormément. Donc on a également aussi une clientèle qui vient nous demander des musiques où là, on répond pas du tout présent. Maintenant, nous, notre but réel, c'est de partir sur une base légèrement commerciale pour adapter l'oreille de la clientèle.
Voilà,
en fait.
Exactement.
Alors, l'association Influence, vous avez pour but de développer des jeunes artistes, des DJ. Concrètement, comment est-ce que vous les castez, déjà?
Il y a une sélection qui est plus ou moins difficile, hein. Je leur mets un gros tas de stress.
Ah oui, oui, ça, oui.
Donc, ils viennent, on essaie surtout avec les DJ de base que l'on a. Je les laisse derrière les platines, je vérifie, je laisse toujours au moins un DJ derrière eux au cas où qu'il y ait un souci. Et effectivement, le but, c'est déjà de voir un petit peu comment ils réagissent face au stress, face à la population, s'ils se remettent en question.
Aux demandes, ouais,
et au bon moment.
Voilà, exactement.
C'est ça. C'est notre système, en tout cas.
Et c'est uniquement du... On est sur du produit local, quoi.
Sur du produit local, mais on peut insister sur le fait que notre Alan Chuck vient de Blois, quand même. Donc, on se déplace et on va voir à droite et à gauche.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on a fait un petit tour sur Poitiers. On attaque beaucoup Angers. C'est vrai qu'on a fait pas mal de boîtes sur Angers. Ouais. On apporte un concept, une notion différente que ce qu'on peut apporter d'habitude, enfin, ce que les autres peuvent apporter. On s'adapte très bien au public. C'est-à-dire que sur une large clientèle qui est en face de nous, s'ils demandent du soleil, on va pas jouer directement du soleil. On va jouer sur un style dérivé de l'électro, une moon button, un truc, voilà. Qui envoie un peu de bousin, pour faire très simple.
Bon. Vous parliez de l'électro, vous parliez d'Angers. Concrètement, le milieu électro à Angers, vous le définiriez comment? Est-ce qu'il est foisonnant? Est-ce que vous venez les sauver à la rescousse? Comment
très honnêtement.
Bah, oui, très honnêtement.
On parle très honnêtement.
C'est pas comme si le micro était ouvert.
Ouais. Très honnêtement, l'électro, ça existe depuis quand même pas mal de temps sur Angers. Maintenant, on est face à une clientèle qui est plus ou moins réticente, qui a un petit peu de mal, donc qui veut effectivement écouter du fun radio, qui veut, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a effectivement une clientèle d'amateurs, il y a une clientèle également. Moi, je dirais toujours que Angers, c'est le berceau de DJ, d'artistes, donc c'est énorme. Maintenant, le problème, c'est que les artistes ne restent pas sur Angers en général. Donc, le but, c'est justement de...
Développer
l'oreille du client. Exactement. Et puis de garder nos artistes aussi.
Vous parliez de commercial, de fun radio et tout ça. Il y a quand même du Timid Record, du Solid Record qui ne joue pas dans cette cour-là, si?
Non, pas du tout. Effectivement, Timid Records, Solid Records, c'est pas du tout le même style. C'est très élitiste. C'est une musique qui est épurée. Donc, effectivement, c'est pas du tout ce qu'ils visent. Oui.
Votre activité, elle a démarré en 2012 avec Influence. Vous avez pas mal de soirées à votre actif. Vous avez accompagné nombreux DJ. Quel bilan vous faites là en 2015 de vos trois premières années?
Qu'on continue sur la même lancée, qu'on a obtenu énormément de DJ, qu'on a réussi à les pousser un maximum et que du coup ils se retrouvent toujours soit à l'UCPA de Lyon, soit dans une boîte de nuit à droite ou à gauche. Donc dans le résultat final, on a servi à quelque chose pour eux.
Oui.
Maintenant on change un petit peu la donne, c'est-à-dire que le but c'est de conserver les DJ et de les améliorer, de les développer et de suivre ce développement avec eux en fait.
Bon, faut savoir que quand même, enfin Jérémy qui est le président, il a l'écoute très très critique, il a l'oreille très fin, c'est-à-dire que sur un set de 6-7 heures, s'il y a le moindre pépin, il nous le dit directement, il le dit directement. Il veut atteindre pas la perfection mais pas loin. Il cherche la perfection quand même, on peut le dire. Ouais.
Vous avez écumé la péniche, le jacaré, le soleil café, vous aimeriez aller où après?
Alors sur
dans le meilleur des mondes, voilà un endroit où vous aimeriez faire une soirée?
Paris, ça serait déjà bien d'attaquer un peu la capitale, de reprendre aussi les bases comme on avait fait à Poitiers, parce que Poitiers, c'est une clientèle aussi qui est assez exceptionnelle. Donc, continuer à rayonner et se faire connaître, quoi.
Comment on peut imaginer la nuit là qui vient? Ça va être 6 heures de...
Débordante d'émotions.
Explosif.
Je pense qu'on va s'éclater. Ouais.
On va s'en prendre plein la face. Ça va être assez violent, je pense.
Vous visez des habitués ou vous espérez ramasser des...
Les deux.
Les deux.
C'est donc de minuit à 6 heures du matin pour les plus courageux, pour les plus en forme, au Soleil Café.
C'est ça.
L'entrée.
Alors, entrée gratuite, masque offert, consommation de courtoisie obligatoire.
Bon. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Jérémy Gébert et Alan Chuck, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis, bonne nuit.
Merci
à vous.
Bonne nuit à vous aussi.
I'm on the fence, but I'm up on down. I'm on the mission, sending all reality. I like you, despise you, admire you. What are we gonna do when everything over?
20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
C'était Courtney Barnett avec Pedestrian at Best ce soir. Khadidia et Benjamin, nos deux stagiaires de la semaine, ont chacun préparé une chronique sur le thème de leur choix. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors on commence avec toi Khadidia, tu reviens sur l'attentat à Charlie Hebdo.
Le 7 janvier 2015, le journal hebdomadaire Charlie était attaqué par les terroristes islamistes. Tout simplement parce qu'ils ont caricaturé Mohammed, le prophète des musulmans. Depuis ce temps, la France était triste et plusieurs journalistes sont abattus. La France est un pays démocrate, laïque, ça veut dire qu'on est libre, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Et qu'on doit aimer tout le monde, que ce soit juif, chrétien ou musulman. Le soir, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle à la télé, j'étais choquée d'avoir entendu qu'il y a eu plus de 12 morts. Il y a des gens qui profitent de dire n'importe quoi, comme que c'est la faute des musulmans, alors qu'ils avaient des musulmans en train de pleurer et ils étaient aussi tristes. Et c'est vrai que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Selon ces frères musulmans, on n'a pas le droit de dessiner le prophète Mohammed. Charlie a le droit de dessiner Mohammed parce qu'il est libre. Il pouvait même dessiner le président. C'est la liberté d'expression. La religion musulmane ne permet à personne de tuer des gens ou de faire n'importe quoi.
Merci Khadidia. Merci. Benjamin, c'est à toi avec un sujet complètement différent puisque tu nous parles de basket.
C'est ça. Aux États-Unis, le sport est quelque chose de très important dans la culture américaine. Le basket en fait partie. Un match de basketball est un super spectacle à aller voir. La National Basketball Association, plus connue sous le nom de la NBA, est la meilleure ligue de basketball professionnel masculin dans le monde. Et c'est aussi une des ligues majeures de ce sport en Amérique du Nord. Elle compte 30 équipes, dont 29 équipes aux États-Unis et une équipe au Canada. Elle joue une saison de 82 matchs de novembre à avril. Après la saison régulière, 8 équipes de chaque conférence participent aux playoffs pour le trophée Larry O'Brien. Ce match, qui opposait les Magic aux Spurs, était un match de saison. Dans les Orlando Magic, Evan Fournier est un très bon joueur. Il est dans l'équipe de France de basketball. Tout comme Tony Parker et Boris Diaw, qui eux sont dans les Spurs et aussi l'équipe de France. Le match de San Antonio Spurs contre Orlando Magic s'est déroulé la nuit dernière à 2h30 heure française au AT&T Center à San Antonio au Texas. C'était donc un match à domicile pour les Spurs. Les San Antonio Spurs, qui étaient favoris, ont eu un début de match compliqué, avec un score de 25 à 24 en leur défaveur. Ils étaient donc à moins 1 point, ce qui est facilement rattrapable. Au deuxième quart-temps, les Spurs passent devant les Magic, avec un score de 51 à 44. On sent un relâchement du côté des Orlando Magic. Troisième quart-temps, les Orlando Magic se redressent légèrement. Ils ne sont plus qu'à moins 4 points pour le score de 78 à 74 en faveur des Spurs, qui eux font deux cartons réguliers en marquant toujours 27 points, ce qui les maintient devant. Quatrième carton, les Spurs de San Antonio ne déméritent pas. Ils ne veulent pas perdre à la maison. Ils marquent donc 32 points, ce qui leur fait un total de 110 points à la fin du match. Du côté des Orlando Magic, ils marquent seulement 29 points, ce qui fait un total de 103 points. Un score insuffisant pour battre San Antonio, qui est vainqueur à l'issue de cette rencontre.
Merci à vous pour ces deux chroniques.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et la perme de ce soir, elle est toujours présentée par Khadidia et Benjamin.
Donc en sortie ce soir, on a Icar à Angers à 20h30 au quai. C'est un spectacle de danse écrit par Claude Brumachon pour Benjamin Lamarche, qui a déjà dansé ce solo plus de 130 fois dans le monde entier. Et toi Khadidia, tu as trouvé quoi?
Ce soir, il y a un spectacle de danse dans la salle Claude Chabrol. On y trouve un fil de conducteur qui permet aux danseurs de tous les niveaux de faire une chorégraphie. C'est à 20h30 et c'est à partir de 3-0 ou gratuit pour les élèves du conservatoire. Et toi Benjamin, tu nous proposes quoi ce soir?
Vous l'avez entendu juste avant, une soirée avec Anonymous by Influence au Le Soleil Café à Angers à minuit. Soirée conceptuelle annoncée avec masque offert aux 100 premiers clients. Un DJ jouera de la musique underground, new, disco, deep, house, de la house music. La house music est un genre de musique de danse électronique qui est originaire de Chicago du début des années 1980. Tu as quoi d'autre?
Une soirée dégustation avec les anges au vin à partir de 20h. C'est une soirée à prix de 6€ à 8€ au bar du quai. Benjamin, t'as quoi d'autre?
The Zygos Palace par les Zygomatiques à l'espace culturel de l'Université d'Angers à 20h30. Soirée payante de 2 à 4 euros. C'est une soirée spectacle d'improvisation guidée par le hasard, les cartes, les paris et les dés. Autre chose ?
Tous les jeudis, toute l'année, à partir de 22h, une soirée initiation salsa gratuite est proposée par la Casa de Cuba. Autre chose, Benjamin ?
Oui, une autre sortie, Talisco au Shabada à 20h30. C'est un concert pop moderne de 7 à 15 euros. Une dernière chose ?
Oui, le 7e art et la manière avec le film Chien au conjugal de Mackiewicz raconte avec Jean-Claude Fitouzi au cinéma Les 400 coups. C'est une soirée cinéma de 4 à 7,60€ à 20h15.
Merci beaucoup à vous deux, on va pas s'ennuyer ce soir. C'était Merci. Benjamin et Khadidia. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore. Tous les mardis soirs à 21h, Johnny Clash sillonne l'Amérique via les sillons de ses disques d'Americana. Mardi dernier, il causait avec Blaze Foley, mort en 89, un exploit.
Bon, il est sympatoche ce morceau Blaze Foley, mais c'est pas très différent de ce qui se faisait à l'époque avec les Outlaw Country, Waylon Jennings, Willie Nelson et compagnie. C'est même assez classique finalement.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Heureusement, parce que sinon je vous casserai la gueule, Johnny. Hein. Ah. Mais c'était histoire d'enregistrer un truc,
okay.
De me prouver que c'était bien ma vocation. J'avais fugué de chez moi très jeune parce que mon père nous battait, mes frères et moi. Et j'ai commencé à jouer de la guitare pour faire la manche, à écrire mes petites chansons. Et cette chanson, je l'ai écrite en faisant du stop à l'époque.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer au Texas ?
Deux amis, principalement. Ma seule vraie expérience musicale jusque-là, c'était de chanter à l'église avec mes parents. Quand j'ai croisé la route de vrais pros de la guitare, du chant et de la composition, j'ai eu envie de rester avec eux, de faire mon apprentissage. J'avais déjà un tas de morceaux en moi, j'avais juste besoin de quelqu'un à qui les chanter.
Et justement, avec des amis, vous enregistrez un premier album dont vous êtes très fier.
Ouais, l'enregistrement était magique. J'y avais mis beaucoup d'amour. J'étais tellement fier que je me baladais avec le master de la séance dans ma bagnole pour le montrer à tout le monde. Et comme prévu, je me le suis fait voler.
Ah ouais, vous avez vraiment la loose, hein, Blaze Foley.
Yep, mais je l'avais bien cherché.
Donc, l'album a disparu, mais ça ne nous empêche pas d'écouter une série de morceaux de l'époque qui nous montrent que vous avez de vrais talents de songwriter, hein, des textes aussi directs et beaux que, disons, du Hank Williams.
Mon héros.
Eh ben, ça tombe bien, c'est le mien aussi.
La totalité de l'émission est à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. À 20h, vous retrouvez une rediffusion des Turbulences avec Arnaud Gonzalez en guest. Merci à Thomas, à Khadidia, à Benjamin. Merci à un autre Thomas pour la co-préparation de l'émission. Merci à Pierre et à David pour la réalisation. Nous, on se retrouve lundi à 19h. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.